Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Nous avons avec nous maintenant la présidente de l'Assemblée de Corse, Marie-Antoinette Maupertuis. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on l'imagine, ce soir sur l'île, il y a encore beaucoup d'inquiétudes.
Oui, il y a encore beaucoup d'inquiétudes après cette matinée avec un épisode climatique fulgurant. Beaucoup d'inquiétudes parce qu'on nous annonce encore de la pluie, du vent, peut-être des tornades marines. Et donc, moi, là, je me trouve sur place à Calvi, où malheureusement, il y a eu un décès, des blessés, des dégâts. Je suis au PC Crise et effectivement, on voit les nuages s'amonceler sur les montagnes au-dessus de Calvi. Donc, on va prendre toutes les dispositions qu'il faut pour éviter qu'il n'y ait encore des pertes humaines, surtout.
Alors, quelles sont ces précautions?
C'est important. Précaution, alors là, avec l'ensemble des services concernés, que ce soit ceux de la collectivité de Corse, de l'État et municipaux, nous nous acheminons vers une évacuation des campings, puisque les personnes qui ont été blessées ou victimes des intempéries étaient des personnes localisées dans des campings la nuit dernière. Bon, je rappelle que l'épisode violent est arrivé ce matin tôt. Relativement tôt et tout le monde a été un peu surpris, bien évidemment, que ce soit la population résidente ou les touristes. Et donc, les campings sont effectivement les endroits les plus vulnérables parce que les personnes sont dans des tentes, dans des bungalows et qu'il y a beaucoup d'arbres arrachés qui tombent. Et du coup, c'est ce qui nous fait craindre, encore une fois, qu'il puisse y avoir des victimes. Donc, il va y avoir normalement une évacuation. Elle a dû déjà débuter au moment où je vous parle. Une évacuation des personnes qui résident en camping sur Calvi, des vacanciers, vers des structures publiques de type gymnase, école, collège. Voilà, tout le monde s'est organisé avec la mairie, bien sûr, les services de la collectivité de Corse et les services de l'État pour réaliser cette évacuation.
Alors, on en est qu'au stade de la recommandation, mais on ne doit pas quitter la Corse ce soir hein, pour sa propre sécurité, Marie-Antoinette.
Ah non, là, tout à fait. Là, la recommandation...
Ça n'est pas une interdiction, hein, pas encore.
Non, mais il vaut mieux. Enfin, moi, je le dis pour vivre ici depuis toujours, avec des épisodes de ce type, avec une sécheresse qui a été très forte depuis le mois d'avril. La terre était très, très sèche. On risque aussi des éboulements sur les routes, on risque beaucoup en montagne également. Il faut que tout le monde reste à l'abri, que ce soit les Corses, bien sûr, mais aussi les personnes, les vacanciers, que les gens qui sont en mer également, les plaisanciers, eh bien, rejoignent au plus vite, si ce n'est déjà fait, des ports, des abris côtiers. Voilà, il y a 14 bateaux échoués sur la plage de Calvi, c'est assez impressionnant, ça fait froid dans le dos. Donc, il faut que personne ne bouge ce soir. Il faut que tout le monde ce soir, cette nuit, jusqu'à demain, tant que l'alerte n'est pas levée. Voilà, il vaut mieux éviter le pire. Et encore une fois, le pire, ce sont les pertes humaines. Voilà, c'est assez terrible de constater que des gens qui sont venus en vacances vont repartir avec un des leurs décédés sur le continent, en Italie ou ailleurs. Et c'est vraiment très, très difficile. Je signale aussi donc, qu'il y a... au total, 5 victimes, mais il y a aussi
6 maintenant. 6 maintenant, voilà. Marie-Antoinette Maupertuis.
6 maintenant, bah, tout à fait, bah, c'est terrible. Il y a aussi un pêcheur corse hein, qui a été victime de cette tempête. Voilà, mais c'est pour cela que vraiment, moi, je lance un appel à la population estivale et résidente. Tout le monde doit rester chez soi. C'est pas la peine de vouloir faire la dernière sortie en mer, la dernière sortie sur le GR20, voilà, ou de vouloir aller d'un village à un autre, parce que les routes sont périlleuses aussi, des arbres s'abattent. Il faut rester tranquille à la maison et terminer les vacances tranquillement, même s'il pleut, même si ce soir, pour certains, ça va être un peu compliqué. Ils vont être dans des gymnases, dans des églises, dans des collèges, mais tout le monde s'active ici. Il y a une grande solidarité pour que les personnes soient prises en charge du mieux possible et que les choses se passent le mieux possible jusqu'à demain.
Voilà, le président du conseil exécutif de Corse, Gilles Simeoni, qui déclare à l'instant s'attendre au pire. Anthony Kaczmarek, quelles sont les prévisions à très court terme là, pour la Corse?
Je vous rappelle que les deux départements sont en vigilance orange pour deux paramètres, violents orages et forte pluie, risque d'inondation. Ça va commencer à partir de 21h. Ce sera en fait une succession d'averses orageuses. Ce matin, il n'y avait qu'un seul système. Là, il y en aura plusieurs qui vont se succéder jusqu'à demain matin, 10h, voire midi, surtout sur l'ouest de l'île. Et on attend, sous ces orages, de forts cumuls de pluie, sans doute jusqu'à 100 litres d'eau par mètre carré, une forte activité électrique, ça veut dire beaucoup d'impact de foudre, et sans doute aussi de fortes rafales de vent, moins fortes que ce matin, mais quand même des valeurs entre 80 et 100 km/h. Donc évidemment prudence, d'autant qu'il y a aussi un risque de phénomène tourbillonnaire, notamment sur les plages.
Marie-Antoinette Maupertuis, on va vous libérer. Avant cela, voilà, l'exécutif a rapidement réagi. Emmanuel Macron va présider une réunion de crise au fort de Brégançon ce soir. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est sur place. Vous attendez peut-être des aides quand le bilan des dégâts, notamment, sera évalué?
Oui, là, on est encore en situation de crise. Là, il faut parer au plus pressé, éviter qu'il y ait des pertes humaines, surtout matérielles également, si l'on peut, mais surtout humaines. Et puis ensuite, il y aura une évaluation. Je pense que la moindre des choses, c'est qu'on ait effectivement une déclaration d'état de catastrophe naturelle, parce qu'économiquement aussi, il y a des dégâts importants. On est en pleine saison touristique, les restaurants de plage, les plaisanciers, les loueurs. Enfin bref, il y a énormément de dégâts aussi. Donc, et puis après aussi, il faudra s'atteler à l'anticipation, à la façon dont on anticipe les impacts du changement climatique sur un territoire insulaire où les phénomènes sont très violents et ils se succèdent avec des vents très forts et puis des risques incendies aussi qui ne sont pas exclus compte tenu, ça paraît paradoxal, mais on peut avoir de très fortes pluies et puis aussi des risques incendies sur certains pans du territoire. Donc il va falloir avoir véritablement une logique très prospective avec des politiques publiques adaptées à ce changement climatique. Et ça se pense tant au niveau global qu'au niveau local. Et on va s'y atteler avec, évidemment, on s'y attelle déjà avec le conseil exécutif de Corse, l'Assemblée, et évidemment en partenariat avec tous les acteurs locaux et également nationaux.
Merci Marie-Antoinette Maupertuis. Je rappelle que vous êtes présidente de l'Assemblée de Corse. Si vous nous écoutez, que vous êtes en Corse, surtout ne cherchez pas à quitter l'île. Restez à l'abri car de nouveaux orages sont attendus ce soir. Restez avec nous sur Europe 1. On va maintenant parler de notre pouvoir d'achat.
Europe Soir, Raphaël Delvolvé.
Les grandes surfaces l'assurent, un plafonnement des prix sur la consommation est à l'étude, mais les consommateurs les jugent insuffisants, mais surtout les producteurs, on l'a entendu tout à l'heure du côté de Bailleul dans le Nord, ces producteurs de lait qui sont allés bloquer une grande surface pour protester contre les prix d'achat qu'on leur impose. Nous allons en parler avec un expert de la grande consommation et de la distribution, Philippe Götzmann. Bonsoir.
Et bonsoir.
Alors, c'est un classique, cette dispute entre les producteurs. Alors, il y a les producteurs de lait dont j'ai parlé, c'était un exemple. Il y a aussi les producteurs de fruits et légumes, de viande et la grande distribution. Expliquez-nous les tenants et les aboutissants.
Vous savez, les prix se négocient toute l'année sur un certain nombre de matières, notamment sur les fruits et légumes qui sont beaucoup dans l'actualité en ce moment. Et puis, on a surtout un contexte depuis le début de l'année qui est très particulier, puisque vous savez que les négociations se font sur les tarifs, se font entre les distributeurs et les industriels, pas les producteurs, les industriels, normalement sur la période d'hiver et se terminent fin février, et ça fixe en gros les prix pour l'année.
Ouais.
Dans le contexte de cette année, entre l'inflation qui avait déjà démarré dans le contexte de du post-Covid et des dérèglements de marchés internationaux, et puis la crise ukrainienne par-dessus, il a été demandé que les négociations soient réouvertes de façon à ce qu'on puisse réajuster les prix parce que les coûts industriels, d'une part, les coûts de production agricole, d'autre part, étaient souvent en forte hausse et nécessitaient de pouvoir être ajustés. Et ces négociations, elles se sont faites au printemps. Certaines ont été achevées fin juin, d'autres en juillet. Certaines ne sont pas terminées. Et puis, les coûts de production fluctuent énormément en ce moment, à la hausse, souvent, c'est ce dont on parle le plus, parfois à la baisse également. Et pas que sur des matières agricoles. C'est notamment aussi des coûts liés à l'énergie, pour les agriculteurs liés aux engrais, liés à l'alimentation animale, qui se répercutent en bout de chaîne sur le consommateur. Et il y a toute une chaîne de discussions entre les agriculteurs, les industriels, les distributeurs, pour essayer de passer les hausses, de permettre que les entreprises tiennent, et d'autre part, d'essayer de modérer au maximum ces hausses pour que les consommateurs la subissent le moins possible. C'est une équation compliquée.
C'est une équation compliquée, mais on comprend la détresse des producteurs qui ne se rémunèrent pas beaucoup. Les prix de l'alimentation ont pris 11%, l'inflation est à 6%, c'est bien ça ?
Alors, les prix de l'alimentation, ce qui est suivi par les panels, on parle des produits de grande consommation, pour que tout le monde comprenne, c'est les produits qui portent un gène code, un code barre, donc on ne parlera pas de la viande ou des fruits et légumes par exemple. Ces prix étaient à une inflation de l'ordre de 5% encore au mois de juin, ils sont passés à 7%, ils ont pris 2 points sur un mois. Ils étaient encore négatifs, on était encore en déflation au mois de décembre, et les tendances laissent penser quand même qu'on va flirter avec 10% d'ici la rentrée. Donc on est sur les produits alimentaires, disons industriels, sur ce type de hausse. Après, sur l'ensemble des produits frais, il y a des variations qui sont extrêmement fortes et qui ne sont pas toujours liées à ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le contexte de négociation, puisqu'un certain nombre de ces produits relèvent de ce qu'on appelle les cours du jour. Ils fluctuent tout au long de l'année en fonction de la pêche, de la récolte.
Et du climat, évidemment. On est en train de vivre un été extrêmement sec. Alors, il faut le dire, on va s'attendre à de nouvelles hausses des prix de l'alimentation à la rentrée.
Alors,
c'est tout le débat qu'on va avoir, évidemment, mais logiquement, dans le meilleur des mondes, normalement, les prix devraient monter pour que nos producteurs, nos agriculteurs soient rémunérés.
Alors, bien sûr, il faut que les prix puissent être rémunérateurs pour la production. Ça, c'est tout le monde le comprend. Maintenant, vous l'avez dit, les prix sur les produits frais, notamment, et notamment les fruits et légumes, sont très liés, évidemment, au contexte climatique, aux saisons. Mais l'effet n'est pas toujours immédiat, parce que entre le moment de la récolte et les phénomènes climatiques qui vont induire des hausses de prix, vous pouvez avoir un temps très long. Souvenez-vous l'année dernière. L'année dernière, on a connu des prix très élevés sur un certain nombre de fruits, à la fin de l'été notamment, mais qui étaient liés à l'épisode de gel qu'on avait connu au mois d'avril. Les arbres avaient commencé à produire, le gel avait détruit une grande partie des cultures, et donc on s'est retrouvé au moment de la récolte, qui est plus tard, avec des hausses de prix importantes. Là, on est dans un contexte un petit peu différent. Certes, on a une sécheresse forte courant de l'été. Elle peut avoir des conséquences, pour ce qui me concerne, je ne les lis pas très bien pour le moment. En revanche, ce qui est vrai, c'est que la production sur beaucoup de ces fruits sera plus importante, et dans des proportions très conséquentes parfois, que ce qu'elle était l'année dernière. Pour exemple, les pêches, on est sur une tendance en volume de production en France, à plus 17%. Les abricots, on est sur le double de la production de l'année dernière. Donc ça, ce sont des éléments qui ne devraient pas induire des hausses de prix. Au contraire, ça devrait permettre de détendre plutôt les prix que les augmenter. Au reste, les fruits et légumes sont sur une tendance de hausse en ce moment, qui est réelle, mais qui est nettement inférieure à la hausse des prix de l'alimentation au global. Les chiffres de l'INSEE, qui est quand même l'organisme qui suit ça de plus près, nous indiquent que de juillet à juillet, de juillet cette année à l'année dernière, les Sur les fruits, on est sur une inflation de 2,6% et sur les légumes de 4,8%. Alors évidemment, c'est pas ce que les consommateurs perçoivent en faisant leurs courses, mais sur des produits dont les prix fluctuent tout le temps, on se souvient assez rarement du prix de l'année d'avant. On va se souvenir du prix d'il y a 3 semaines, d'il y a 2 mois, où on va avoir d'autres éléments de référence. Mais bon, l'INSEE nous donne ces chiffres-là. On est à plus 4,8 sur les légumes et plus 2,6 sur un an sur les fruits. Et sur les fruits, c'est amusant parce que si vous regardez sur un temps encore plus court, c'est sur les légumes. Entre avril et aujourd'hui, les prix, hein, c'est un panier qui est pondéré, c'est un calcul assez compliqué que fait l'INSEE, les prix des légumes ont baissé de 12%.
Merci Philippe Goetzmann de nous avoir éclairé. Je rappelle que vous êtes expert en grande consommation et distribution. On revient dans quelques instants sur Europe 1 pour parler cette fois-ci des Outre-mer. Gérald Darmanin est attendu ce week-end à Mayotte, juste avant un petit interlude musical avec Zazie, Let It Shine.
Hey, oh, c'est pas bientôt fini, tout ce boucan, ce vacarme, y'en a qui dorment la nuit. Pas moyen d'arrêter les rêves partis dans mon crâne, ni le marteau piqueur dans mon cœur. J'ai pas fermé l'œil de la nuit, c'est pas l'envie qui manque, c'est le manque qui s'impose. Pas ma dose, plus de concert, pareil qu'on sert plus à rien. V'là l'insomnie qui revient. Ben tant pis, youpi, que danse mes nuits blanches et mes idées noires. Et si l'espoir brille par son absence,